Alors, bonsoir à chacun, je reprends. Hein. Ce soir, c'est la dernière séance. Et juste pour faire un peu le topo de ce que nous avons vu les autres fois précédentes, nous avons pu voir donc qu'est-ce que la Bible, qui est Dieu, comment interpréter la Bible, qui est Jésus-Christ, qui est le Saint-Esprit, qu'est-ce que le monde invisible, qui sommes-nous et quel est notre problème devant Dieu, comment vivre le pardon et qui est le peuple de Dieu, et donc ce soir, ce que nous présentons. En survol de ces différents thèmes, nous avons pu voir la révélation progressive de la parole de Dieu et qui est le Sauveur qui est venu nous libérer de notre première nature. Nous, le peuple de Dieu, attendons la seconde venue de Christ. Et donc ce soir, Marc va nous présenter ce qui va se passer à la fin. Je vais prier pour nous ce soir et je te laisserai la parole, Marc. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions, tu vois, de pouvoir passer encore cette soirée autour de toi, devant ta parole. Nous demandons de permettre que tu ouvres nos cœurs, que tu accompagnes Marc dans cette présentation et tu permettes que tu nous diriges et permettes que nous puissions arriver à saisir ce qui sera pour les temps de la fin. Nous te remettons encore toute chose, la technique, et nous te remercions encore une fois pour ta parole, en te louant, te bénissant et t'adorant. Amen.
Bonsoir à tous. Mon nom, c'est donc Marc Chibli et la société missionnaire pour laquelle je travaille se trouve en Allemagne. C'est pourquoi c'est difficile à prononcer. Central Africa Mission. Et vous entendez que ma langue maternelle n'est pas le français, mais l'allemand, respectivement le suisse-allemand. Mais j'ai une femme qui vient de la Suisse romande et elle s'est donné beaucoup de peine pour me corriger sans arrêt. Et pour bien m'apprendre le français, si bien que dans le cadre de mon travail missionnaire, je peux me débrouiller quand je rencontre mes chers frères en Afrique ou en Haïti, où je suis de temps en temps en route. J'ai le privilège et en même temps la charge lourde et quelque part impossible de parler de la fin des temps et des dernières choses qui vont arriver dans ce monde et jusqu'en éternité. J'ai donc appelé le sujet un peu différemment. J'ai choisi le titre La prophétie biblique et la doctrine de la fin et du retour de Jésus-Christ. Parce que quand nous parlons des dernières choses, des choses à attendre encore, eh bien ce qui doit nous préoccuper, c'est bien sûr avant tout la personne de Jésus-Christ. Et il est aussi le sujet principal, ce qui n'est pas étonnant, le sujet principal de la prophétie biblique. Nous allons voir ça, j'espère, en long et en large ce soir. Alors, nous commençons avec un défi que Dieu lance aux hommes, car il est impossible à l'homme de prédire l'avenir. Dieu l'a institué comme ça, que nous sommes ignorants quant à l'avenir de façon précise, au moins. Nous pouvons espérer que certaines choses vont continuer à se dérouler comme ça a toujours été le cas, comme par exemple les conditions météorologiques ou aussi ma santé pour que je puisse continuer à vivre ma vie quotidienne comme je l'ai fait jusqu'à maintenant. Mais fait est que l'avenir précis nous est caché et il peut arriver tout d'un coup des choses que nous n'avons pas du tout sur l'agenda. Dieu lance le défi suivant aux hommes, deux passages du prophète Ésaïe. Ésaïe 41, versets 22 à 23, Dieu dit: Quelles sont les prédictions que vous avez faites autrefois? Dites-le pour que nous y prenions garde et que nous en reconnaissions l'accomplissement. Ou bien annoncez-nous l'avenir, dites ce qui arrivera plus tard pour que nous sachions si vous êtes des dieux. Et dans le même sens, Ésaïe 46, versets 9 à 10, souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis: Mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Donc Dieu lance le défi aux hommes de se souvenir du passé et de prendre garde à ce que Dieu avait prédit dans l'avenir et ce qui est arrivé par la suite. C'est par cela qu'on reconnaît un prophète authentique. Ou bien il nous dit, dites-nous ce qui va arriver et nous allons examiner la chose pour voir si vous êtes des dieux, et bien sûr, vous ne le pouvez pas. Donc, Dieu étant le seul vrai Dieu, omniscient, omnipuissant et omniprésent, c'est lui seul qui vit dans le passé et dans l'avenir. Il connaît toutes choses et c'est ce qui nous est lancé comme défi. Et quand les hommes non-croyants sont confrontés avec le fait de la prophétie, avec le fait que Dieu prévoit et prédit l'avenir et agit aussi de façon active pour que ces décrets et ces desseins se réalisent, eh bien, ça scandalise l'homme incrédule. Un philosophe bien connu en Allemagne, un auteur et philosophe du nom de Michael Schmidt-Salomon, il est évolutionniste et athée. Il a dit ceci il y a quelques années: nous existons dans un univers qui a apparu par le hasard. Nous venons du néant et nous allons vers le néant. L'histoire de l'humanité suit son cours sans plan ni but. Ce serait affreux si c'était vrai, mais celui qui ne veut pas accepter que Dieu dans la Bible parle de façon prophétique, il accepte volontiers ce genre de philosophie, je dirais quand même totalement décourageante. Parce que qu'est-ce qu'il y aurait d'encourageant dans une idéologie pareille qui nous dit nous venons de l'hasard, du hasard, et nous allons vers le hasard et vers le néant, sans plan ni but. La Bible, par contre, nous le savons, parle tout à fait différemment de nos débuts et de la fin vers laquelle nous allons. La Bible nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et ensuite, Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu. Et ensuite, l'histoire de l'humanité, on peut conclure de toute la prophétie et de tout ce que la Bible dit sur le gouvernement de Dieu, l'histoire de l'humanité se poursuit selon le plan de Dieu. La Bible dit que ce plan est conçu avant la fondation du monde et que ce plan tend vers un but précis fixé par Dieu lui-même. Et nous avons le privilège que Dieu a révélé dans sa parole ce but et aussi le chemin que nous avons à parcourir pour arriver vers ce but. Et pour bien choisir pendant notre course sur la terre, pendant notre vie, bien choisir afin que nous participions à une fin glorieuse et bienheureuse. Maintenant, avant de définitivement tourner nos regards vers l'avenir, je veux juste vous prier de vous rappeler, si vous avez lu au moins une fois la Bible, vous êtes au courant que Dieu dans le passé est intervenu à plusieurs reprises dans l'histoire de l'humanité de façon ponctuelle et surnaturelle. Donc, nous ne venons pas du hasard et que les événements se déroulent d'une façon systématique soumise aux lois naturelles et parfois un peu aléatoire par des catastrophes, peut-être un volcan ou un tremblement de terre ou un météorite qui frappe la Terre. Non, il y a eu des grandes crises dans le passé ou des grandes interventions de Dieu, mais ce n'était pas le hasard de la nature, mais c'est Dieu qui a agi. Tout d'abord par la création. Il a créé la terre et les cieux à partir du néant par sa parole. Ensuite, il y a eu la chute, le péché, et Dieu a maudit le sol suite au péché de l'homme et il a fait entrer le principe de la mort dans toute la création. Ce n'est pas seulement l'homme qui est mort à partir du moment où il a péché, mais dans toute la nature, le principe de la mort s'est installé. Ensuite, nous connaissons le déluge. Là aussi, c'était une intervention surnaturelle de la part de Dieu, un jugement, comme finalement aussi la tour de Babel pour la confusion des langues, le jugement sur Sodome et Gomorre. Et ensuite, quand on continue à lire l'Ancien Testament, on voit la libération d'Israël Les 10 plaies d'Égypte, la traversée de la mer Rouge, la manne et la colonne de feu pendant 40 ans dans le désert, là toujours et encore, Dieu a agi de façon surnaturelle en intervenant dans l'histoire de l'humanité. La même chose avec la conquête de Canaan, la traversée du Jourdain, les murs de Jéricho qui se sont écroulés, les pierres de grêle, l'arrêt du soleil lors de la conquête du pays de Canaan sous Josué. Nous avons peut-être des moindres miracles, mais néanmoins quand même, la force de Samson, les miracles d'Élie et Élisée, et les miracles du temps de Daniel et de ses amis, fournaises ardentes, fosse aux lions, écriture sur le mur, et finalement, du temps de Jésus et de ses apôtres, la naissance virginale de Jésus, les miracles de Jésus, sa résurrection, son ascension, la venue du Saint-Esprit et les miracles des apôtres. Je ne veux pas parler maintenant de la question si nous vivons encore les miracles aujourd'hui, mais fait est que si nous regardons le temps qui s'est écoulé depuis le temps de Jésus et des apôtres, nous avons l'impression que Dieu intervient non plus tellement depuis, de façon ponctuelle et surnaturelle, mais avant tout de façon secrète en opérant la nouvelle naissance chez ceux qui croient. J'insiste là-dessus parce que nous passons un temps au niveau de l'ère de l'Église entre la Pentecôte et l'enlèvement de l'Église qui n'est plus caractérisée comme nous venons de le lire depuis la création jusqu'au temps de Jésus et des apôtres où Dieu est intervenu maintes fois de façon surnaturelle, parfois très violent et parfois en grande bénédiction qui a frappé les yeux. Ce qu'il fait depuis 2000 ans, comme je viens de le dire ici, il le fait de façon secrète en opérant néanmoins de grands miracles, mais plutôt de façon cachée, à savoir par la proclamation de l'Évangile et sous l'action du Saint-Esprit, il opère la nouvelle naissance pour quiconque croit, avec le don du pardon des péchés et de la vie éternelle. Si je note des références bibliques dans mon PowerPoint, je vous prie de m'excuser, on ne peut pas lire tous ces paragraphes et tous ces passages, mais si vous voulez retravailler le sujet, c'est pour vous donner quelques références, pour approfondir et aussi pour avoir de la part de la parole de Dieu la confirmation. Donc la nouvelle naissance est un miracle, c'est un acte surnaturel par lequel Dieu donne la vie éternelle à un être mortel. Ce miracle est bien plus grand que tout autre miracle opéré dans le monde matériel. Donc si nous cherchons des guérisons ou des multiplications de pain ou des transformations d'eau en vin, rappelons-nous que la nouvelle naissance, quand un homme ou une femme croit en l'Évangile et sont nés de nouveau, nés d'en haut par le Saint-Esprit, c'est un miracle bien plus grand que tout autre miracle dans le monde matériel. Le Seigneur Jésus accomplit ainsi la prophétie faite en Matthieu 16, 18. Je bâtirai mon Église en bâtissant un temple saint dans le Seigneur, étant lui-même la pierre angulaire et les croyants les pierres vivantes qui sont ajoutées pour former ce temple saint dans le Seigneur, aussi appelé le corps de Christ dont nous sommes les membres. Voici le temps actuel où Dieu opère ses miracles de nouvelle naissance, mais il y aura de nouveau un temps, et maintenant nous tournons nos regards vers l'avenir, de nouveau un temps où Dieu interviendra encore à plusieurs reprises dans l'histoire de l'humanité de façon ponctuelle et surnaturelle, et j'ajoute de façon dramatique. Donc sans aucune hésitation, nous disons oui, il y aura un changement au niveau de la façon d'agir de la part de Dieu. Et une fois, non, je dirais plutôt, cette période commencera par l'enlèvement de l'Église, qui sera un miracle incroyable, tellement incroyable que beaucoup de chrétiens n'y croient pas vraiment, parce que c'est simplement pas imaginable qu'une telle chose puisse se passer. Mais une fois que l'enlèvement de l'Église aura eu lieu, il y aura de nouveau une série d'interventions de la part de Dieu qui ressembleront en quelque sorte à cette période entre la création jusqu'au temps de Jésus et de ses apôtres. Il y aura des jugements apocalyptiques extraordinaire et terrible aussi. Ces jugements apocalyptiques sont divisés en trois séries de sept, les jugements des sceaux, les jugements des trompettes et les jugements des coupes de la colère. Ensuite, il y a des miracles de guérison aussi, comme l'appel des 144 000 Israélites fidèles qui sont mis à part et scellés par une intervention miraculeuse de Dieu pour réveiller spirituellement et mettre à part un résidu fidèle en Israël qui évangélisera d'abord ses compatriotes, mais par-dessus cela aussi les personnes du monde entier pendant la période de la tribulation des 7 ans. Le déchaînement des puissances démoniaques aura lieu également d'une façon comme jamais vue auparavant. Les deux témoins à Jérusalem d'Apocalypse 11, leur miracle de jugement plutôt, à l'exemple de Moïse et d'Élisée, et d'Élie, de Moïse et d'Élie, leur miracle, leur résurrection finalement, après avoir été mis à mort par l'Antéchrist, par la bête, et leur ascension. Satan sera expulsé du ciel et jeté sur la terre. Sa colère se déchaînera contre le résidu d'Israël sur la terre, les croyants d'Israël, mais ce résidu sera protégé de façon miraculeuse dans le désert. C'est Apocalypse 12 qui nous le dit, appuyé par des passages aussi dans les prophètes de l'Ancien Testament. Et finalement, nous assistons à la bataille d'Armageddon vers la fin de ces 7 ans de tribulation et la venue du Seigneur en gloire. Son apparition nous est décrite en Matthieu 24, 27 à 31, et ensuite aura lieu le jugement des nations, un jugement qui décidera qui devra entrer dans le royaume millénaire et qui ne devra pas entrer et sera jugé. Nous aurons aussi la bête et le faux prophète qui seront jetés dans l'étang de feu et Satan lié pour 1 000 ans. Tout ça par des interventions ponctuelles, surnaturelles et dramatiques de la part de Dieu. Suite à ces 7 années de tribulation, de jugement et de temps de grand tourment, prendra place le millénium, le règne de paix, le règne messianique. Et à la fin de ce règne, il y aura la dernière révolte de Satan. Il sera libéré encore une fois. Une dernière révolte où il séduira les nations et ensuite Satan serait jeté dans les temps de feu. Le grand trône blanc, la résurrection et le jugement des incrédules et finalement le nouveau ciel et la nouvelle terre, l'état éternel auquel nous assisterons sans pour autant savoir beaucoup de choses sur cet état éternel, nous dirons encore un mot à la fin. Alors, j'ajoute encore à cette vision sur l'avenir qui sera terrible à partir du moment où l'Église sera enlevée. Dans la période actuelle, Dieu agit quand même au-delà aussi des nouvelles naissances qu'il opère par la prédication de l'Évangile, comme nous avons vu. Dieu est au volant, comme on dit. Il est à la commande des choses qui se passent présentement aussi. J'ai résumé ceci en disant, dans la période actuelle, Dieu dirige à leur insu les nations païennes et la nation d'Israël souverainement selon sa providence. Les païens ont l'intelligence obscurcie. Ils sont ignorants à cause de l'endurcissement de leur cœur. Comme par exemple le philosophe Michael Schmidt-Salomon que nous avons vu au début, il n'a aucune idée de ce que Dieu opère en ce moment en mettant à part les gens qui croient à l'Église, à l'Évangile, les mettant à part dans l'Église en les préparant pour un avenir glorieux. Les nations sont laissées dans leur intelligence obscurcie. Néanmoins, à tout individu parmi les nations doit être prêché l'Évangile. Israël, à son tour, est aveuglé à cause du rejet de son Messie. Le voile est sur leur visage. Ils ignorent que Jésus est leur Messie. Juste une petite actualité, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a certains juifs en Israël qu'on appelle communément les juifs messianiques qui croient en Jésus comme leur Messie, mais il y a deux petites partis politiques dans la Knesset, dans le Parlement israélien, des partis de juifs orthodoxes, donc qui défendent en principe la tradition et la parole de Dieu, du moins l'Ancien Testament, mais ils rejettent totalement l'idée que Jésus soit le Messie pour eux et ils exigent de la part de Netanyahou depuis plusieurs années qu'une loi soit décidée dans le Parlement israélien qui interdit de proclamer Jésus publiquement comme le Messie des Juifs, le Messie d'Israël. Donc tellement le voile est encore sur eux. Et la plus grande partie des Juifs n'ont pas encore reconnu Jésus comme leur Messie. Ça, c'est l'état actuel pendant le temps de l'Église. Toutefois, il y a toujours et encore, à travers toute l'histoire de l'Église, il y a des Juifs qui entendent le message de l'Évangile et se tournent vers Jésus-Christ comme leur Sauveur et Seigneur. Dieu n'est pas inactif pour autant. Il maintient la vie sur terre comme Créateur tout-puissant et souverain. Il opère toutes choses selon le conseil de sa volonté et une nouvelle période commencera quand la totalité des païens sera entrée et que les temps des nations seront accomplis. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, le nouveau temps qui commencera débutera avec l'enlèvement de l'Église. Regardons quelques caractéristiques de la prophétie. La prophétie biblique est un miracle unique et choquant dans l'histoire. Choquant pour l'incrédule qui ne veut pas accepter que Dieu connaisse l'avenir ou qu'il y ait un Dieu qui connaisse l'avenir et qui le communique de façon précise aux hommes. Nous allons juste regarder ces trois points. La prophétie est une preuve de l'inspiration divine de la Bible. Deuxièmement, la prophétie est une lumière et une consolation pour le peuple de Dieu, mais un scandale pour l'homme incrédule. Et troisièmement, la prophétie parle de Christ et le révèle progressivement. La prophétie est une preuve de l'inspiration divine de la Bible. Du début à la fin, quand vous lisez la parole de Dieu, la prophétie caractérise continuellement le langage de la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Juste pour expliquer ce que je veux dire par là, quelques citations prophétiques qu'on ne réalise même pas qu'elles sont prophétiques quand on lit la parole de Dieu, mais tout ce qui est formulé dans le futur indique toujours quelque chose qui va arriver dans l'avenir, dans un avenir plus ou moins proche. Genèse 2, verset 17, l'avertissement à Adam et Ève, le jour, ou à Adam à ce moment-là, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ce qui est arrivé par la suite, ou bien la prophétie sur la semence de la femme qui écrasera la tête du serpent et le serpent lui brisera le talon. Ça aussi, c'était une grande prophétie. On dit même c'est la première mention de l'Évangile dans la parole de Dieu, en annonçant que Satan combattra Jésus-Christ, la semence de la femme, mais Jésus-Christ écrasera la tête du serpent de Satan. Je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre. Dieu a annoncé le déluge 120 ans, en tout cas 100 ans avant que le déluge arrive, parce que Noé était 500 ans au début quand Dieu lui a parlé, il était 600 ans au moment où il est entré dans l'arche. Je te donnerai ce pays et je te multiplierai. Nous sautons vers Abraham, à qui Dieu a donné la promesse du pays et du peuple. Tes descendants seront étrangers dans un pays et ils seront asservis pendant 400 ans. Ça, c'était une prophétie que Dieu a donnée un peu plus tard à Abraham et il précise que sa descendance sera asservie pendant 400 ans. Et nous trouvons là une caractéristique dans les prophéties qui sont données à Israël, que Dieu indique des périodes de temps précises. Ces 400 ans se sont accomplis dès le moment où Jacob, avec sa famille, est descendu en Égypte jusqu'au moment où Moïse est venu comme libérateur pour délivrer le peuple de l'esclavage. Un temps précis qui s'est accompli. Finalement, Moïse a pu leur dire de la part de Dieu, je vous affranchirai et je vous ferai entrer dans le pays. Ce qui est arrivé, Dieu les a libérés de l'esclavage et les a conduits à travers le désert. Au bout d'un moment, après le refus d'entrer dans le pays, dans Nombre 14, il leur annonce que le voyage à travers le désert durerait 40 ans. Maintenant, vous direz, oui, mais tout ça, ce sont des prophéties qui se sont réalisées dans le passé. Et celui qui a écrit la Genèse aurait pu inventer toutes ces histoires et prouver leur réalisation par l'histoire qu'il a inventée par la suite. Oui, on pourrait raisonner comme ça si on ne voyait pas que justement le langage prophétique et les événements prophétiques qui sont annoncés et qui se réalisent le font tout au long de l'histoire de la Bible et du peuple d'Israël jusque dans notre temps. Et nous pouvons observer que, par exemple, des choses qui ont été annoncées, comme par la suite la captivité de 70 ans à Babylone, s'est réalisée aussi et s'est accomplie comme Dieu l'a prédit. Et plus tard, les prophéties de Daniel sur la succession des quatre empires babyloniens, médo-perses, grecs et romains. Daniel a fait ses prophéties sur la succession des quatre empires environ 550 ans avant Jésus-Christ. Et cela s'est tellement bien réalisé, ce que Daniel a prophétisé, que les théologiens critiquent dans la théologie libérale de nos jours, on arrive à la conclusion qu'il est impossible que Daniel ait pu écrire ça plus de 500 ans avant Jésus-Christ et avant leur réalisation. Donc on a conclu, Daniel a dû écrire son livre, non pas lui, mais quelqu'un qui s'est servi de son nom, qui a écrit ce livre de Daniel dans le premier ou le deuxième siècle avant Jésus-Christ. On cherche ensuite donc de tels arguments pour contredire la réalité de la prophétie biblique. Le langage prophétique est donc le langage que la Bible utilise du premier au dernier livre, toujours et encore. Et quand vous lisez les Évangiles et le Nouveau Testament, je me suis donné une fois comme but en lisant le Nouveau Testament de noter tous les passages qui parlent d'une manière ou d'une autre du retour de Jésus-Christ. Donc, en vue maintenant de son deuxième retour, bien sûr, et j'ai sorti environ 150 passages et versets. Donc, le langage prophétique caractérise la parole de Dieu parce que Dieu est un Dieu de la prophétie. La prophétie est une lumière et une consolation pour le peuple de Dieu, mais un scandale pour l'homme incrédule. Nous en avons déjà dit certaines choses, mais je veux juste vous rappeler que Dieu utilise le langage prophétique non seulement pour montrer qu'il est Dieu et pour nous donner une orientation, mais aussi pour nous consoler, pour nous fortifier et pour nous affermir dans notre marche, pour que nous ne soyons pas choqués par les choses qui arrivent, parce que il est dit dans Amos 3, verset 7, le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc c'est son intention que nous connaissions les choses que nous devons connaître, pas tout ce qui correspondrait à notre curiosité, mais tout ce que nous devons connaître, Dieu nous le révèle pour que nous sachions quels sont ses plans et ses buts. Je vous le dis dès maintenant, dit le Seigneur à ses disciples dans Jean 13, 19, avant que cela arrive, afin que, quand ce sera arrivé, vous croyez que c'est moi. Voici, je vous l'ai dit à l'avance. Ou Marc 13, verset 23, voici, je vous ai tout dit à l'avance. Ou 2 Pierre 1, verset 19, nous donne encore une belle image au sujet de la parole prophétique. La parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. N'est-ce pas merveilleux? Nous marchons dans un monde de ténèbres qui est rempli d'ignorance, qui refuse même que l'avenir puisse être connu, et nous avons une lampe dans la parole prophétique qui ne nous donne peut-être pas la lumière sur tout ce qui va arriver et sur tout ce que nous aimerions savoir, mais elle nous donne une lampe, une lumière bien assez claire pour marcher de façon sûre, afin que nos pieds ne tombent pas dans le fossé à droite ou à gauche du chemin, mais avancent tranquillement et clairement vers le but que Dieu nous a fixé par la parole prophétique. Comme je l'ai déjà dit, je le répète, l'homme incrédule rejette totalement la réalité de la prophétie biblique. C'est un scandale pour lui, car il se veut libre et maître de ses choix et de son destin. J'ai déjà mentionné le phénomène du livre de Daniel dans la théologie libérale, mais vous avez peut-être remarqué aussi que quand vous discutez avec des gens qui refusent de croire et que vous essayez d'apporter l'argument de la prophétie biblique, ils ne sont généralement pas prêts à examiner vraiment les prophéties bibliques et de voir si des prophéties faites dans le passé se sont réalisées, par exemple aussi avec la venue de Jésus-Christ, avec les prophéties au sujet de sa première venue et les prophéties au sujet du peuple d'Israël. Ils ne veulent pas vraiment y prêter attention parce que la pensée qu'il y ait un Dieu qui est au gouvernement céleste et qui dirige les affaires de ce monde vers le but qu'il s'est proposé, ça les dérange trop et ils veulent bannir de leur pensée cette idée parce que ça voudrait dire qu'ils ne peuvent pas choisir librement leur avenir et leur destin. Et l'homme incrédule, il veut être maître de ses choix et de son destin et le fait qu'il y ait un Dieu qui dirige toutes choses et qui fait réaliser ce qu'il a décidé d'avance, ça les dérange. Encore 2 minutes pour cette dernière page, après quoi nous ferons une pause. La prophétie parle de Christ et le révèle progressivement. Vous savez tous que dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de prophéties au sujet du Seigneur Jésus, et il y a deux sortes de prophéties à son égard. D'abord, les prophéties au sujet du Christ régnant, le roi de gloire, et ensuite le Christ souffrant, l'humble serviteur. Juste quelques exemples, les prophéties au sujet du Christ régnant, par exemple Genèse 49, verset 10, les bénédictions de Jacob sur ses fils, il dit sur son fils Judas, le sceptre ne s'éloignera point de Juda jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Shiloh ici, un titre du Messie. Les commentateurs ont de la peine à le traduire vraiment d'après ce que j'ai trouvé, mais néanmoins, c'est clair que c'est un titre qui parle d'un futur maître, d'un futur roi, d'un futur gouverneur. Qui sera issu du peuple, de la tribu de Juda, plus tard confirmé par la prophétie sur le fils de David. Mais aussi dans Nombre 24, de la bouche de Balaam, il y a cette déclaration étonnante: Je le vois, mais non maintenant, je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. Une déclaration claire au sujet du Messie qui sortira dans les temps à venir de la descendance d'Israël. Et ensuite, comme j'ai dit déjà, dans 1 Chronique 17, nous avons la promesse à David qu'un de ses fils sera assis sur le trône pour toujours. Si vous lisez cette promesse dans 2 Samuel 7, vous verrez que on peut plutôt l'appliquer sur Salomon, mais dans 1 Chronique 17, la prophétie va plus loin que Salomon seulement, qui avait un règne limité, bien sûr, et qui est mort comme tout le monde. Mais dans 1 Chronique 17, nous voyons clairement la déclaration au sujet du Messie qui sera assis pour toujours sur le trône de David. Quand tes jours seront accomplis, j'élèverai ta postérité après toi, l'un de tes fils, et j'affermirai son règne, et j'affermirai pour toujours son trône. Je l'établirai pour toujours dans ma maison et dans mon royaume, et son trône sera pour toujours affermi. Et dans le même ordre d'idées, dans le psaume 2, verset 6, c'est moi, dit l'Éternel, qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Donc ça, c'était les prophéties sur le Christ régnant, roi de gloire. Et il y en a beaucoup. Vous pourrez continuer à regarder ça dans les références que j'ai données en bas de la page. Mais dans l'Ancien Testament, il y avait également les prophéties au sujet du Christ souffrant. Maintenant, je vois que l'heure est quand même avancée. Claude-Henri m'a dit d'arrêter vers moins 10 au plus tard. Rien ne nous empêche de faire simplement la pause maintenant et de continuer avec le Christ souffrant après la pause. Est-ce que le modérateur est d'accord
Tu
avec cette proposition?
peux poursuivre, Marc. Tu peux
Oui.
terminer sur le Christ souffrant, c'est parfait.
D'accord. Très bien. Vous savez bien que les disciples n'avaient aucune sensibilité pour reconnaître ces prophéties sur le Christ souffrant. C'est pourquoi je voudrais ne pas tout de suite vous dire où se trouvent les prophéties sur le Christ souffrant dans l'Ancien Testament, mais juste regarder comme le Nouveau Testament révèle et insiste sur le fait que tout l'Ancien Testament parle du Christ souffrant, humble serviteur. Luc 24, versets 26 à 27, passage bien connu, les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, le Christ ressuscité leur dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Et dans le même ordre d'idées, Pierre, après la Pentecôte, après avoir été rempli du Saint-Esprit et après avoir compris beaucoup, beaucoup de choses, dans Actes 3, 18, il dit, mais Dieu a accompli ainsi ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Je suis vraiment émerveillé de penser à Pierre qui, dans Matthieu 16, vous vous souvenez, s'est opposé farouchement à la déclaration du Seigneur Jésus quand celui-ci disait que le Christ, que lui-même devait souffrir et devait être mis à mort. Et Pierre, excusez-moi, Pierre le reprend par ces mots. L'ayant pris à part, Pierre se mit à reprendre Jésus et dit, À Dieu ne plaît, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Ils étaient complètement fermés à l'idée que leur cher Seigneur devait souffrir. Mais quelque temps plus tard, dans Actes 3, 18, Pierre affirme avec autorité que tous les prophètes ont annoncé que le Christ devait souffrir. Alors, cela nous confirme qu'une fois l'esprit éclairé, on lit l'Ancien Testament avec une attention particulière à ce sujet. Mais je vous avoue, même que je vous parle de la prophétie de la Bible ce soir, j'aurai de la peine à vous montrer le Christ souffrant dans tous les prophètes. Dans Amos, dans Joël, c'est pas si facile. Dans Jonas, oui, nous avons les 3 jours et les 3 nuits dans le ventre du poisson, puis Jésus explique que c'est une prophétie sur lui. Mais dans Sophonie, dans Habacuc, peut-être dans Agé, aussi Malachie, c'est pas toujours tout facile de découvrir le Christ souffrant. Néanmoins, la parole de Dieu, le Nouveau Testament, Jésus et ses apôtres le déclarent très clairement. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde et Christ, notre Pâque, a été immolé. Ces deux citations que vous voyez ici dans Jean 1, 29 et 1 Corinthiens 5, 7, de la bouche de Jean-Baptiste et plus tard de Paul, nous montrent que tous les sacrifices dans l'Ancien Testament ont parlé de Christ et de sa mort. Tous les sacrifices de l'Ancienne Alliance préfigurent Christ dans son sacrifice à la croix. Et voici quelques passages cité en bas de la page pour appuyer ce point de vue. Aussi bien sûr des personnes comme Isaac, qui a été sacrifié ou mis sur l'autel par son père Abraham, ou Joseph qui a été rejeté par ses frères, ou Moïse et David qui ont été rejetés aussi, avant de prouver qu'ils sont vraiment les conducteurs de Dieu, choisis pour le peuple, rappelle Jésus-Christ dans sa première venue. Voici pour le Christ souffrant un sujet caché dans l'Ancien Testament, mais quand même accessible et ouvert et clair pour l'œil et le cœur régénéré qui se laisse éclairer par le Saint-Esprit. Voilà, maintenant nous faisons la pause.
Alors, je propose que on fasse effectivement une pause et on verra éventuellement pour faire un temps de réponse aux questions juste au démarrage de la prochaine session. Bonne pause à chacun. On